Bonjour tout le monde, bienvenue dans Raconte ta parentalité. Parent, c'est le plus beau métier, alors pourquoi ne pas le raconter? À chaque épisode, je recevrai un invité qui racontera sa parentalité ou comment il l'a vécu. Bonjour Sandra.
Bonjour Ami.
Comment tu vas?
Bien et toi?
Je suis très contente d'enregistrer cet épisode avec toi.
Et bah toi, merci de m'avoir invitée surtout.
Ouais, surtout que t'es plus qu'une invitée, t'es aussi une de mes très très proches amies.
À ce qui paraît.
Et en plus, tu es la marraine de ma fille.
Et oui!
Donc c'est un honneur pour moi. Est-ce que tu veux bien te présenter, Sandra?
Alors donc moi c'est Sandra, j'ai 41 ans et demi, donc je suis en couple depuis 13 ans avec Jeff et on est mariés depuis un an et nous avons ensemble deux garçons de 6 et 9 ans.
Qui s'appellent
Jawen et Jairon.
Ok, et qu'est-ce que tu fais du coup, ton parcours professionnel? Associatif.
Donc moi je suis dans l'animation, je suis issue de l'animation, donc j'ai un parcours un peu classique, animatrice, directrice, coordinatrice de projet éducatif territorial et là je suis sur un poste de coordination extrascolaire.
Ok, super. L'idée aujourd'hui, c'est de faire connaissance avec toi, que tu puisses nous raconter ta parentalité. Et je pense qu'on ne peut pas le faire en faisant l'impasse sur qui était Sandra l'enfant.
Alors, Sandra l'enfant était une enfant assez calme, dans son coin, réservée. Voilà, de ce que disent mes parents, c'est que j'étais une enfant... tranquille, assez facile.
Et la constitution de ta famille, du coup, t'as grandi dans une famille monoparentale
donc,
ou pas?
Donc j'ai grandi avec mon père et ma mère, donc qui étaient mariés, et j'ai un grand frère qui s'appelle David et avec lequel j'ai 6 ans d'écart.
D'accord, et du coup, est-ce que tu veux bien nous parler déjà dans un premier temps de ta relation avec David?
Ma relation avec David, alors quand on était enfant, je ne m'en rappelle pas trop. Je sais que j'aimais bien, c'est ce qu'il dit souvent, j'aimais bien être un peu dans ses baskets, dans sa chambre. Et puis au fur et à mesure, en plus, mon frère, il était un peu DJ, on va dire. Et c'est lui qui m'a fait découvrir le rap français. Donc voilà, j'adorais squatter dans sa chambre pour écouter les nouveaux sons qui sortaient. Et là, je dirais qu'à l'heure actuelle, on a une relation vraiment complice, ouais, vraiment fraternelle.
Fraternelle, une belle relation complice. Et quel était le rapport que tu pouvais avoir avec tes parents? Est-ce que tu peux nous décrire quel style de parents tu avais?
Alors, mon père, il était chauffeur poids lourd, donc il n'était pas là de la semaine. Il sillonnait la France, donc il était là uniquement le week-end. Et puis ma mère, elle travaillait sur Paris, donc elle partait tôt le matin, revenait tard le soir. Et donc moi, j'étais gardée par de ce qu'on appelait à l'époque une nourrice, donc, voilà, qui m'emmenait à l'école, qui venait me rechercher, qui me faisait goûter mes devoirs, etc.
Et du coup, t'as eu est-ce que tu as des souvenirs de la relation que tu pouvais avoir avec ta maman? Est-ce que c'était une relation complice dans tes souvenirs ou est-ce que c'était une relation qui était basée sur la communication ou pas?
Ma mère, elle m'a surprotégée, vraiment. Peut-être parce que certainement j'étais une fille, que j'étais la dernière. Mais elle m'a beaucoup protégée, beaucoup de stress, d'anxiété sur ce qui pouvait m'arriver. Donc j'ai vécu un peu dans cette espèce de bulle où j'ai pas pu expérimenter certaines choses, quoi, en fait. Donc après, à la maison, pour moi, on communiquait pas spécialement. Et alors, quand mon père était là, à l'époque, en tout cas, c'était 20h, c'est le journal télévisé. On est tous à table ensemble, ok, mais que tout le monde ferme sa bouche parce que papa est en train de regarder le journal télévisé. Donc on se faisait des signes, tu vois, parce qu'il fallait pas parler. Et dès qu'on parlait, chut, t'es beau, j'entends pas ce qu'il dit. Et voilà, t'avais mon père qui trônait au bout de la table et nous tout autour, quoi. Et mon père bien face à la télé. Donc en fait, la communication, il n'y en avait pas tant que ça. Même si dans ma famille, on a toujours été très taquins. On était quand même complices, mais on va dire que la communication, elle n'existait, enfin, elle était très peu présente plutôt.
Ouais, voilà. C'était la communication pour justement se faire comprendre de l'autre, mais pas forcément pour parler de ses émotions.
C'est ça.
Est-ce que, du coup, tu me disais que ton père, il était souvent sur les routes, et du coup. Est-ce que ta maman, c'était la femme qui tenait la maison, genre le gant de fer dans... Enfin, la main de fer dans le gant de velours, ou plutôt, plutôt cool, tranquille? Comment elle fixait les règles? Comment elle a fait pour gérer, justement, toi et ton frère?
Alors, j'ai pas spécialement de souvenir qu'on avait des règles de famille ou... C'est vrai que j'ai très très peu de souvenirs de mon enfance, mais je sais que au bout d'un moment, c'est un peu mon frère qui a pris le relais. Je pense que ma mère lui a laissé cette place, on va dire, de père entre guillemets, et qu'à l'âge, quand moi je suis arrivée à l'adolescente, où c'était mon frère qui fixait les règles. Non, t'as pas le droit de sortir. Non, maman, tu la laisses pas sortir. Elle va aller en boîte avec ses copines. Elle va faire ci, elle va faire ça. Donc voilà, j'ai été... Ouais, mon frère m'a beaucoup, beaucoup bloqué quand même. Hein.
Et du coup, quand tu parles justement, on arrive dans l'adolescence. Tu t'as dit que t'avais été surprotégée, que t'avais une nounou jusqu'en CM2, si je me souviens bien. Comment ça se passe l'arrivée en sixième?
Libération. Libérée, délivrée.
Ouais, mais il y avait ton frère pas loin, non?
Oui, mais en fait, déjà, tu n'as pas les mêmes horaires que lui. Donc moi, si je rentre en sixième, ça veut dire que lui, il était déjà au lycée. Et en fait, il n'était pas sur le lycée...
De secteur.
Il était à Saint-Denis. Et donc, moi, voilà, je prenais le bus... Ça y est, c'était la première fois de ma vie que je prenais le bus, que je passais un peu les frontières de mon quartier, de la zone où j'habitais. Donc non, ça a été une grande libération et on va dire un terrain de jeu, en fait. L'extérieur, mon environnement, c'était un terrain de jeu où voilà, j'ai pu expérimenter plein de choses.
Est-ce que le fait d'avoir... Est-ce que tu as l'impression, en tout cas, que le fait d'avoir été surprotégé au moment où, justement, on accède à cette pseudo-liberté, est-ce qu'on fait les bons choix? Est-ce qu'on fait plein de bêtises? Parce que certains parents pensent que on va serrer la vis à fond pour justement éviter à nos enfants de faire des erreurs. Et inévitablement, va arriver ce moment de la liberté. Et du coup, toi, comment tu l'as vécu ce moment? Est-ce que ça a été un moment où c'était que du bonheur? Mais est-ce que tu as fait des erreurs?
Alors après, je pense que j'ai pas bravé les interdits. Après, j'ai peut-être minimisé les choses, mais ça se passe peut-être pas pour tout le monde pareil. Mais voilà, tu tentes la cigarette, tu tentes d'autres choses. Mais t'as quand même en tête cette éducation qu'on te donne, quoi. J'étais pas inconsciente à me dire je vais aller faire non plus n'importe quoi. Et puis voilà, je savais que derrière il y avait ma mère, mon père qui était là le week-end. Et mon frère quand même. Je savais que derrière, voilà, il y a l'avoir du monde.
C'était une fausse liberté en fait.
Ouais.
Très vite, on arrive, on passe l'adolescence, on arrive à l'âge où on devient une jeune adulte. Est-ce que tu te visualisais en tant que femme, parent, adulte? Comment tu voyais Sandra adulte?
Je me voyais hyper bien sapée, tu sais, la nana qui travaille dans les bureaux, le blazer, la petite jupette, les talons. Voilà, je voyais ça comme ça, en fait, rentrer dans la vie active. Pour moi, c'était ça.
Ok.
Et je réfléchissais pas du tout à une question de maternité ou non. C'était
même pas dans les pensées, c'était pas un projet.
Ah non, mais ouais, non, j'y pensais pas du tout.
Et qu'est-ce qui fait que tu te voyais en tailleur, bien apprêtée? Est-ce que c'est le modèle de ta mère ou est-ce que c'était quelque chose auquel tu aspirais?
Je pense que c'est quelque chose auquel j'aspirais parce que ma mère, elle est habillée, on va dire, de façon assez normale, même si elle travaille dans un bureau et tout. Et non, c'est ouais, l'image peut-être que j'aurais aimé être à ce moment-là, alors que là maintenant tu me poses la question, je te dis non... J'aimerais pas être habillée comme ça maintenant.
Quand on arrive justement 18, 20 ans, on commence à devenir adulte, jeune adulte. Est-ce qu'il y a une étape dans cette vie de jeune adulte qui, selon toi, a eu un impact fort sur la femme que t'es ou la mère que t'es, que ça soit dans les relations affectives, dans les premiers amours ou bien expérience professionnelle? Est-ce qu'il y a un moment donné, avant que tu rencontres Jeff justement, est-ce qu'il y a eu un temps qui a marqué ta vie de femme et de mère?
Bah, j'ai commencé à travailler, j'avais 20 ans, donc j'ai commencé dans l'animation. Et ça m'a très vite plu. Hein. Et à la base, c'était qu'une année de transition parce que je voulais intégrer une école d'éducateurs de jeunes enfants. Et puis je m'étais dit, je vais faire un an d'animation. Et puis voilà. Et ma chef de service de l'époque m'avait dit, non mais tu verras, tu vas pas faire un an, tu vas y rester. J'avais dit, si, là je me laisse un an, je fais mon bac en candidat libre et puis après j'intègre une école de JE. Sauf qu'en fait elle avait raison, parce que je suis restée dans l'animation, parce que ça me plaisait d'être au contact des enfants, de leur transmettre des choses, de participer à des moments ludiques avec eux, parce que la vision que plein de gens ont des animateurs, c'est tu joues au ballon toute la journée. Alors que non, c'est pas du tout ça. Pour moi, le métier d'animateur, c'est co-éducateur. Toute cette sphère, tu sais, qui gravite autour de l'enfant, les parents, les associations sportives, les animateurs, en fait, tout ça participe à l'éducation de l'enfant. Et je pense que je m'en suis rendu compte assez rapidement quand je suis rentrée dans le monde de l'animation. Et puis après, j'ai voulu passer à quelque chose d'un peu plus concret. En fait, on va dire que j'avais pris un peu confiance en moi. Voilà, j'avais mis en place plein de projets. Et je m'étais dit, pourquoi pas passer responsable de structure, en fait.
OK. Et arrive le moment de la rencontre où ton choix se porte sur Jeff. Est-ce que tu peux nous raconter, parce que moi, je suis une gamine, tu le sais, la rencontre?
La rencontre. Alors moi, je sortais d'une relation de couple, voilà, un petit peu compliquée. Voilà, on connaît, hein, t'es dégoûté des mecs, nanana. Et j'avais un copain en fait, un pote qui allait sur un site de rencontre. Et souvent j'étais avec lui et donc on était là, on vannait les profils des nanas et tout. Et puis il me dit vas-y, tu t'en crées un et tout. Mais non, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Les gars là-bas, eux, ils attendent qu'une chose.
Ils attendent quoi?
Ils attendent que de serrer pour un soir et puis c'est tout quoi. Je dis, moi je suis pas du tout là-dedans. Et puis je sais même pas si j'ai envie de réentamer une relation sérieuse. Et puis, comme tu le sais, je suis un petit peu curieuse, donc je me dis bon vas-y. Donc on crée mon profil ensemble. Ouais, vas-y, mets une photo, Sandra. Oh non, vas-y, je vais pas mettre une photo. T'imagines?
T'as mis une photo?
Au début non. Et il me dit mais si t'as pas de photo, qui va te calculer? Je lui dis mais voilà, c'est ça votre problème aussi à vous. Je lui dis on peut pas s'attacher à une personnalité, à quelque chose, des hobbies. Non, il faut mettre une photo. Donc les premiers temps, j'en ai pas mis. Et puis après, je voyais que j'avais pas trop. Alors je sais pas si c'était des vues à l'époque ou je me rappelle plus trop. Je me suis dit, bon, allez, vas-y. Donc, tu prends une photo, même pas avec ton portable, quoi, avec un appareil photo numérique. Tu mets ce qu'on appelait les filtres à l'époque. Mais les filtres à l'époque, c'était du noir et blanc ou du sépia, enfin, tu vois. Et puis, voilà. Et puis, rapidement, en fait, je crois que c'est Jeff qui tombe sur mon profil. Donc, on fait connaissance. Il habite une ville voisine de la mienne. Donc on a des lieux en commun et lui il travaille pour l'éducation nationale et à côté de ça en fait il était lui aussi animateur en séjour, éducateur sportif et tout, donc on avait ces sujets de discussion autour voilà, des séjours qu'on pouvait passer, des enfants qu'on avait pu rencontrer et ça a très vite matché parce que on avait cette relation où on aimait bien se vanner, se titiller et voilà, j'accrochais bien et j'ai senti que c'était quelqu'un de différent de ce que j'avais pu rencontrer avant. Voilà, on n'était pas on va dire qu'on était sur un profil de mec normal, il m'avait l'air d'être normal.
C'était pas un psychopathe.
Voilà. Et qu'il allait pas me faire la misère, enfin je sais pas, je me suis je me suis tout de suite sentie en confiance avec lui et il m'a tout de suite parlé aussi de sa famille, tu vois. Ses parents, ils ont toujours fait partie de milieux associatifs, c'est des grands sportifs. Sa mère était à fond voilà, dans les associations et tout ça. Et il m'en a très vite parlé. Et c'est rare, en fait. Enfin, moi, à l'époque, je trouvais ça rare pour un mec de parler directement de sa famille, des vacances qu'il passait avec eux et tout. Et voilà. Et puis, bah, au bout d'un moment, il a dit, OK, bah, c'est bien mignon, on est là, on échange des messages, mais on se voit. Oh là là, ok. Donc voilà, on s'est vu et puis il m'a attendu en fait avec une bouteille de champagne. Parce qu'à l'époque, je buvais un peu d'alcool, j'aimais bien faire des petites soirées sur Paris et tout ça. Donc il m'a attendu avec une bouteille de champagne, on a mangé au resto et puis je crois qu'on a fini sur les quais de Seine, tu vois, un truc un peu
romantique.
Et moi, ça me faisait bizarre, j'étais jamais tombée sur des mecs comme ça.
Toi avant c'était quoi, grec et canette?
Ouais voilà, c'était un peu ça quoi. Et tu vois, on se voit au ludopark quoi, et on se met sur un banc et puis voilà, on discute quoi. Et donc ça me faisait bizarre, je me disais mais c'est quoi cet ovni quoi. S'il écoute l'émission après il va me vanner, mais enfin même la manière de s'habiller, tu vois, c'était différent de tout ce que j'avais pu rencontrer. Donc à ce moment-là je me suis dit j'ai peut-être passé un cap, je suis peut-être devenue, je sais pas, peut-être un peu plus mature. Et puis bah voilà, ça s'est fait.
Ah, du coup, on comprend que ton choix se porte sur Jeff parce que des valeurs communes, une bonne entente, bon délire. Et quelque part, il t'a apporté une proposition différente de ce que tu avais connu. Tu peux dire ça comme ça ?
C'est ça.
Comment vous décidez, du coup, de vous installer ensemble ? Est-ce que c'est quelque chose qui se planifie ? Est-ce que c'est quelque chose qui devient une évidence ?
Ça s'est fait très naturellement. À l'époque, j'étais en colocation avec mon frère. Et puis, de par la force des choses, voilà, mon frère a pris un appartement avec sa petite amie de l'époque. Et puis, bah, moi, je suis revenue chez mes parents. C'était un peu la loose. Et Jeff avait un appart. Et puis, bah, tu connais, hein, tu ramènes... une ou deux fringues, 8 ou 10 paires de chaussures. Tu commences à ramener ton frigo, ton canapé de ton ancien appartement. Et puis voilà, ça s'est fait, ouais, ça s'est fait de manière très, très naturelle.
Et du coup, OK, vous vous installez ensemble. Est-ce que vous avez des projections de devenir parents ensemble? Vous avez des projets? Quels sont vos projets? Quel est le projet sur le papier quand vous vous installez en fait?
Et ben, on vit au jour le jour. On vit au jour le jour. Et ce qui m'a convaincue aussi dans cette relation, c'est que moi, je voulais pas d'un truc fusionnel où on est H24 ensemble, où on peut rien faire l'un sans l'autre, où si je vais chez des potes, il faut qu'ils viennent avec moi. Et vice versa. Et donc, par exemple, moi, quand j'avais des vacances, j'allais en séjour. Lui, pareil, quand il allait en vacances, il allait faire des camps sportifs au Canada. Et voilà, en fait, notre relation, elle s'est construite de cette manière-là. Et ça nous convenait à tous les deux. On se voyait quand on se voyait, mais des fois, quand on se voyait pas pendant un mois et qu'on se retrouvait à la maison, voilà, on était contents de se retrouver, mais on parlait pas de projet de voyage, de projet de mariage, de projet de bébé. Ouais, on vivait vraiment au jour le jour.
Ok. Et pour autant, aujourd'hui, 13 ans plus tard, 2 enfants.
C'est ça.
Est-ce que tu peux nous parler de justement l'arrivée de ton premier fils, Jaouen, et comment ça se passe, comment tu vis ta grossesse, comment vous vivez ensemble cette parentalité en devenir en fait?
Bah déjà, j'étais très surprise de tomber super rapidement enceinte. Parce que voilà, j'avais la trentaine passée, donc je me rappelle, j'avais dit à Jeff, mais tu crois que j'ai encore 20 ans moi pour tomber enceinte comme ça aussi rapidement? Et au final, ça a pris très très rapidement, donc on était étonnés tous les deux. Et honnêtement, j'ai vécu une grossesse, c'était vraiment top, où je me sentais, alors c'est bizarre, hein, ton ventre il s'arrondit, tu prends des kilos, tu manges pas mal, mais j'étais bien. vraiment sereine, épanouie. J'ai vraiment vécu une grossesse qui était, je dirais, ouais, idyllique, quoi.
Et Jeff, comment il vit cette grossesse? Est-ce qu'il arrive à se rendre compte à ce moment-là que lui aussi, il va devenir papa? Qu'est-ce qu'il en dit?
C'était pas trop concret pour lui au départ. Ça l'est devenu un peu plus au fur et à mesure des échos, t'entends le cœur du bébé qui bat, quand le bébé commence à donner des coups dans le ventre, c'était un peu plus concret. Et en fait, c'est devenu vraiment une réalité le jour de l'accouchement. Là, c'est... Jeff, il a lâché les chevaux, quoi.
Ça y est, je suis papa.
Ça y est, je suis papa.
Ouais.
Je suis papa.
Et du coup, on va consacrer un petit peu de temps justement à Jeff. Est-ce que tu disais qu'il t'avait parlé de sa famille? Est-ce qu'il a parlé de la relation que lui, il pouvait avoir avec son père, sa mère? Et du coup, la projection ou les choses qu'il voulait ou voulait pas avec ses enfants? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous avez pu échanger?
Pas spécialement, mais après, on était d'accord dans ces... Dans les valeurs familiales, mais pas que familiales au sens propre du terme. C'est aussi la famille et les proches qui sont autour, qui eux aussi vont amener les valeurs et qui eux aussi vont nous aider à construire, on va dire, entre guillemets, la personnalité de nos enfants. Et ouais, voilà.
Et du coup, tu disais que toi, tu as commencé à avoir tes enfants pas sur le tard, parce qu'il n'y a pas de tard, 30 ans, c'est quand même aujourd'hui, vu la moyenne d'âge des parents en fonction du niveau de vie, des études, des projets. Mais à 30 ans, du coup, j'imagine qu'autour de toi, bon, déjà, moi, j'avais commencé et je crois que j'avais même fini.
J'avais mes trois filles.
Mais du coup, on a été plusieurs comme ça autour de toi à commencer à mettre, à donner la vie. Et du coup, est-ce que pour toi, ça a été... en fait, est-ce que ça t'a apporté quelque chose de pouvoir aussi vivre la parentalité à travers d'abord tes amis et ensuite la tienne ou pas du tout?
Bah, ça t'apporte forcément quelque chose parce que tu vas poser des questions, genre est-ce que c'est normal que ça fasse ça, est-ce que je te parle là de la grossesse, on va dire, et même quand tu te projettes sur l'accouchement, t'échanges et puis bon bah tu te rends compte que t'as des versions différentes parce que bah chacune d'entre nous est différente. Et c'est vrai que moi j'étais une des dernières à avoir des enfants, et puis c'était un peu compliqué pour moi de pouvoir me projeter parce que je suis la dernière de ma fratrie et dans mes cousins-cousines, je suis la plus petite. Et
t'as pas changé les couches?
J'ai pas changé de couche. Voilà, les premières couches que j'ai changées, je pense que c'est celle de ta fille, tu vois. Donc tout ça, je savais pas. Et puis, mais j'étais pas pour autant paniquée, en fait. Et je me disais, de toute façon, quand je vais accoucher, j'aurai toutes mes copines autour de moi qui vont pouvoir m'aider, et voilà.
Est-ce qu'il y a des choses que tu as pu voir chez nous autres? Là, je dis nous, parce que dans ton entourage, tes amis, ton cercle, est-ce qu'il y a des pratiques que tu as pu voir où tu t'es dit, franchement, Jeff, quand on aura notre enfant, ça, jamais, ou ça, c'est pas mal?
Ouais, j'entendais souvent, alors pas forcément, je sais plus si c'est forcément de mes proches, mais souvent, si le bébé il pleure, faut le laisser pleurer, c'est comme ça qu'il va apprendre. Et moi, là, pendant la grossesse, on en parlait avec Jeff, et je disais, mais moi, ça, c'est hors de question. Parce que forcément, j'ai commencé à me documenter, à lire. Puis c'était la période où tu avais Montessori, qui était en plein essor, le maternage, l'allaitement, tout ça. Donc j'avais une vision de ce que je voulais comme un projet de naissance, enfin, de ce que je voulais, de ce qu'on voulait, même si moi, je mettais un peu plus ma patte. Jeff était là, oui, bah oui, fais un peu comme tu veux. Donc au début, Ivana, elle dit, ouais, bah on pourra mettre du zouk pendant l'accouchement. Je dis, ah non, hors de question qu'on mette du zouk, mais on va mettre du Wallen pendant l'accouchement. Et après, même sur la question du choix des prénoms, tu vois, c'est... On était souvent en désaccord. Moi, je voulais des prénoms originaux pour mes enfants, voire bah, des prénoms inventés. Et enfin, voilà, tout ça, c'était quelque chose de sympa. Et puis, il y a des choses où des fois, je pouvais voir des amis crier sur leurs enfants. Je me disais, mais attends... On dirait qu'elle est débordée, on dirait qu'elle est au bout de sa vie, mais je comprends pas, son gamin, il est super mignon. Ouais, ouais, bah toi, quelques années après, tu te rends compte que... Ah oui, ok.
Il est mignon chez les autres.
Ok, ok, je comprends mieux cet état.
Arrive le jour J, l'arrivée de Jaouen, comment ça se passe? Tu perds les os, tu perds pas les os, t'accouches en voix basse
Alors je perds les os, je suis chez mes parents à ce moment-là, j'ai mangé le midi avec mes parents, ma mère s'apprête à aller à son cours d'aquagym et je perds les os. Et ma mère, ultra protectrice, la bulle et tout ça, oh là là, mais tu vas accoucher, je peux pas aller à l'aquagym, mais appelle Jeff. Oui, c'est bon, j'ai appelé maman, là il rentre du travail, il va venir me chercher, on va à la maternité, tranquille, va à ton cours d'aquagym. Ma mère, elle voulait pas. Mon père, c'est bon, tu commences à nous casser les bip, tu vas aller à ton cours d'aquagym, c'est bon, elle t'a dit qu'elle allait pas accoucher maintenant, elle va pas accoucher maintenant. Et donc, bah, je suis restée avec mon père et tu sais, mon père, c'est vraiment le français typique, hein, patriarche, machin, tu vois, je suis un bonhomme, je monte pas mes émotions, je suis fort. Et ce jour-là, il a pris un catalogue Lidl et en fait, il faisait semblant de le feuilleter, tu vois, pendant que j'étais en train de perdre les os et d'attendre Jeff, je voyais qu'il faisait semblant de le feuilleter parce qu'il voulait pas montrer que lui-même... Il était en train de s'inquiéter et de se dire mais est-ce qu'elle va pas accoucher au milieu de mon salon ça? donc voilà. Et puis après Jeff est venu me chercher et on est parti à la maternité. Ça met un peu de temps à se faire et dans mon projet de naissance j'avais mis aussi que je voulais pas de péridurale. Tu vois, je voulais un truc un peu tout. Ouais,
t'as voulu faire la meuf.
Ouais, j'ai voulu faire la meuf. Et en fait, bah, au bout d'un moment, c'est devenu un peu insupportable. Donc, j'ai dit non, mettez-moi la péridurale et c'est bon. Et donc, j'ai accouché par voix basse. C'était un accouchement qui s'est parfaitement bien passé. J'ai pas eu d'épisio. Nickel.
Comment on appréhende justement, enfin, comment vous, est-ce que tu as un souvenir de la première rencontre, du moment où il pousse son premier cri, tu le vois, ça, il est là, ouais. Tu le découvres.
Bah, déjà, quand les sages-femmes te le mettent sur le torse, nous on avait demandé donc de faire le pot à pot directement, et déjà c'était une grande fierté pour moi d'avoir accouché, c'était, j'arrive même pas à le décrire en fait, c'était ouais, une très grande fierté et là tu sens plein une espèce de bulle d'amour autour de toi, tu calcules plus personne, si t'as Jeff qui est là à ta gauche et qui est en train de pleurer, oh, mon petit garçon, j'ai jamais vu comme ça, c'était la première fois. Et puis après, la sage-femme qui demande à Jeff est-ce que vous voulez faire le pot à pot ? Oui, 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 il s'est désapé direct. Ouais, ouais. Et même lui, j'ai encore des photos de lui où tu vois un visage apaisé et hyper serein quoi, d'avoir son enfant sur lui. Et ouais, voilà.
C'est le début d'une nouvelle aventure.
Début d'une nouvelle aventure.
Comment se passe justement le retour à la maison? Est-ce que tu peux nous brasser rapidement la première année de la vie de Jaouen?
Le retour à la maison, voilà. Après, c'était plus le postpartum, tout ce qui se passe de manière un peu gynécologique. Je trouvais qu'à l'époque, on n'en parlait pas suffisamment. On n'est pas préparé à tout ça, là, ce qui se passe en bas.
On ne nous a pas expliqué la rééducation du périnée.
Et pourtant, j'ai une amie qui est sage-femme et qui m'avait expliqué tout ça. Mais c'est vrai que voilà, quand tu le vis, c'est autrement, quoi. Puis avec la chute d'hormones et tout ça. et en fait, Jawen, je l'allaitais. Et au bout d'un moment, bah voilà, moi, il faut que je reprenne le travail. Et il allait être confié à une assistante maternelle parce qu'on n'avait pas eu de place en crèche. Et donc, il fallait forcément que j'alterne et que j'essaye de tirer mon lait. Et seulement, je tirais pas grand-chose. Et je m'étais dit, bon, bah écoute, on va passer au biberon. Sauf que le biberon, il le refusait complètement. Il voulait pas du tout du biberon. Et puis, tu sais, tu fais des pesées à la PMI et tout ça. Donc, la PMI nous alerte une première fois. Il faut que vous alliez à l'hôpital. Et là, tu tombes face à un pédiatre qui te dit... Écoutez, madame, monsieur, votre fils, en plus il a mal prononcé, votre fils Jayden, alors qu'il s'appelle Jawen, votre fils Jayden est anorexique. Et même je m'en rappelle, j'avais mon fils sur les genoux, et même mon fils avec ses grandes billes noires là, qui le regardait genre, t'es en train de nous dire quoi là, professeur? Et donc je lui dis, non mais il n'est pas anorexique, vous savez ce que c'est l'anorexie là, on n'est pas sur un refus de s'alimenter ou quoi que ce soit là, c'est, il veut pas prendre le biberon machin là, là. Et donc il nous propose l'hospitalisation, donc nous on est radical, on dit non, il n'y a pas d'hospitalisation, on rentre à la maison, on va faire tout ce qu'on peut, et donc on retourne à la maison, mais on a la PMI obligatoire quotidiennement,
tous les jours,
il faut que tu ramènes ton enfant à la PMI pour le peser. Et bah oui, forcément, il prenait toujours pas le biberon. Franchement, on a essayé à la seringue, enfin on avait essayé plein de trucs et ça marchait pas. Et puis bon, bah là, avec Jeff, on s'est résigné et on s'est dit, bon, bah vas-y, go pour l'hospitalisation. Et à l'hospitalisation, je suis pas tombée, enfin donc j'étais avec lui, uniquement avec lui, et on n'est pas tombé forcément sur des professionnels qui étaient bienveillantes et qui étaient pro-allaitement aussi. Le biberon c'est à telle heure, tu l'allaites à telle heure, la nuit t'as pas le droit de l'allaiter, faut que tu lui donnes un biberon. Et en fait je me rappelle que, et t'avais pas le droit de dormir avec lui, il fallait qu'il soit dans le berceau à côté de toi. Et puis il y a une nuit où voilà, il pleure et tout, et je me suis dit, oh, flemme, je vais pas lui préparer un biberon, je vais lui donner le sein. Et à ce moment là t'as, je sais pas si c'est une aide-soignante ou une auxiliaire de puère qui rentre et qui dit, mais qu'est-ce qu'on vous a dit? Vous n'avez pas le droit d'allaiter. Là, la nuit, c'est le biberon.
C'est super violent.
Et toi, t'es là, waouh. Mon enfant, il a envie d'allaiter. Je le laisse allaiter. Enfin, voilà, je réponds à ses besoins. Et qu'est-ce qu'on vous a dit? Il n'a pas le droit de dormir dans le même lit que vous. On ne sait jamais si vous l'étouffez, si vous vous retournez dans votre sommeil, machin, nan. Donc... ouais, j'ai pris position, je suis restée sur mes trucs, et au final, il a réussi à prendre le biberon, et voilà. Alors, j'étais un peu déçue, tu vois, un peu de culpabilité aussi de ma part, de me dire, purée, j'ai pas réussi à tirer mon lait, j'ai pas réussi à me faire un stock, pour le prochain enfant, je vais mieux m'organiser.
Tu vas mieux t'organiser. du coup, ce deuxième enfant arrive aussi. Avec 3 ans d'écart, du coup pendant 3 ans vous vivez avec Jaja. C'est difficile, est-ce que les choses se passent avec aisance, est-ce que vous faites face à des grosses difficultés d'éducation, de position, de...
Non,
de vie.
Alors après, les premiers mois, oui, parce qu'il pleure, il ne veut pas faire de sieste en pleine journée. Et je te parlais tout à l'heure de mon amie qui est sage-femme. Et elle m'avait conseillé à l'époque, parce qu'on est tombé enceinte quasi au même moment. Et elle m'avait dit, viens, on va à des cours de portage. Il y a des nanas qui montrent comment mettre une écharpe de portage et tout. Ouais, bon, allez, vas-y. Et en fait, moi, je me suis vachement pris au jeu. Après, j'ai acheté une écharpe. Après, Jeff, il a fait des cours de portage et tout. Alors, je te raconte pas, hein, les femmes au cours de portage. Oh, un futur papa qui va porter son enfant. Mais comme c'est mignon. Et ça nous a vachement aidé, que ce soit Jeff ou moi, parce qu'on l'a porté tous les deux en écharpe de portage ou en porte-bébé. Ça nous a aidé dans les tâches de la vie quotidienne, parce qu'il n'avait pas envie de faire de sieste dans son lit. Hop, tu le mets dans l'écharpe et au bout de 2 secondes, il s'endormait, quoi. Tu pouvais passer l'aspirateur en même temps, tu pouvais faire ta cuisine, enfin tu pouvais faire trop de choses, quoi. C'était franchement, je pense que Ça, ça a sauvé ma santé mentale.
Un peu à l'effigie des femmes qui portent leur bébé dans le dos dans les pays d'Afrique, en fait.
Complètement.
On les met au dos des tout petits et pour pouvoir justement aller, venir, vaquer à tes occupations. Au moment où tu apprends justement que ton deuxième enfant, donc Jairon, va venir au monde, comment tu l'annonces à Jaja? Comment c'est vécu dans la famille?
Je l'annonce à Jaja, il me semble, par le biais d'un livre. Il me semble que c'était ça. Du coup, il était hyper content. Lui, il espérait que ce soit une petite sœur. Moi, j'espérais que ce soit encore un garçon. Jeff espérait que ce soit une fille, la fille à son papa, la princesse. Et voilà, on était tous ravis d'accueillir ce deuxième enfant. Il fallait faire de la place à la maison parce qu'on vivait et on vit encore d'ailleurs dans un appartement qui était pas très grand. Donc voilà, faut faire de la place, mais on est tous très très contents, quoi.
Ouais. La naissance, l'arrivée de Jairon, la première rencontre, les premiers mois.
La naissance un peu plus compliquée que pour Jawen, parce que c'était un plus gros bébé, et puis plus compliqué pour moi aussi, c'était en plein mois d'août, donc j'avais gonflé de partout, j'étais franchement épuisée, et puis après comme d'hab, le retour à la maison, et là je sens que ces pleurs ne sont pas les mêmes que Jawen, ne sont pas les mêmes des autres enfants de mes copines, et je sens qu'il y a il y a un truc qui va pas. Donc on fait comme on a fait pour Jawen, on fait une séance avec une ostéopathe qui nous dit non, ça va, alors il avait une petite bosse sur le crâne, mais non, c'est bon, ça va se résorber, vous inquiétez pas. Ok, d'accord. Seulement il pleure tout le temps. En fait, il pleure tout le temps. Et tu vois, à l'intérieur de toi, tu te dis, mais il y a un truc. Donc après, tu vas voir le pédiatre de la PMI qui dit, oui, il a un reflux gastro-œsophagien, vous lui donnez ça, machin. Donc ok, ça se calme un petit peu, mais pas pour autant. Donc tu te dis, le portage, de toute façon, ça a des effets bénéfiques. Donc peut-être que ça va lui faire du bien, peut-être que... Enfin voilà, on essaye le portage, sauf que alors...
C'est pas le même gars.
On avait bien organisé le truc. Ouais, alors pour lui, on prendra cette écharpe de portage là, machin. Sauf que lui, il en avait rien à faire du portage. Et je m'en rappelle, hein, il était vraiment tout petit et il poussait ses mains sur mon torse, l'air de dire,
lâche-moi. Tu me portes pas.
J'ai pas envie d'être là-dedans. Et je le sentais se tortiller et tout. Et je suis après sur des groupes Facebook de mamans qui parlent de ce fameux reflux gastro-œsophagien, et puis après t'as une maman qui dit qu'elle a fait des séances chez un chiropracteur et que ça a été révolutionnaire et tout.
Le chiropracteur, c'est un peu d'ostéopathie, un peu plus poussé,
un peu plus dur,
musclé,
un peu plus rude, et donc la nana, je communique avec elle par Messenger et tout machin. Elle me conseille un chiropracteur, mais je crois que j'en prends un autre, donc j'y vais. Jeff était pas chaud. Jeff, il m'a dit, moi je veux pas entendre parler de cette histoire là je sais pas ce que l'autre il va faire à mon fils, il va lui tordre le cou, machin. Mais non, la nana elle l'a fait. Mais vas-y, la nana tu la connais pas, c'est que les réseaux sociaux et tout. Donc il m'a dit, de toute façon tu le fais pas, je m'en fiche, je veux pas en entendre parler. Donc j'ai pris un rendez-vous, j'ai été de mon côté avec mon fils, on fait la première séance, et franchement au bout de deux jours c'était plus le même bébé. Déjà il a souri, et je peux te dire que quand il a souri, je me suis effondrée. C'était la première fois que mon bébé, il me souriait. Et je m'en rappelle, je le regardais, je disais, mais t'as souri.
Ouais, tellement c'était.
Et je me dis, waouh.
Il avait quel âge à peu près?
Je sais plus, peut-être un mois et demi. Franchement, je me rappelle plus.
Et du coup, il a décelé quelque chose chez ton fils?
Et du coup, en fait, il y avait je me rappelle plus les termes employés, mais il y avait un problème au niveau de la nuque, en fait. Il y avait quelque chose qui était bloqué et que l'ostéo n'avait pas dû voir à ce moment-là. Et de mémoire, j'ai fait une deuxième séance, genre pour le chiropracteur m'avait dit un peu pour aligner, quoi. Et c'est marrant qu'on parle de l'alignement. Et puis après, nickel.
Ok. Et à partir de ce moment-là, en fait. En fait, ton ressenti en tant que maman, même les spécialistes ont beau te dire « non, il n'y a rien, par moment, cette intuition, bah, là, pour le coup, pour toi, elle s'avère justifiée.
Ah oui, complètement.
Et à partir de là, bah, Jayron va mieux, il sourit, il grandit.
Et là, à ce moment-là, je me suis dit, tu vois, t'as bien fait de ne pas écouter les autres. C'est pour ça qu'il faut toujours en prendre et en laisser et se fier à son premier instinct et cet instinct maternel. Là, quand tu dis, ton enfant, il a quelque chose, ça ne va pas, hey, tu ne te poses pas 3000 questions, vas-y.
Ouais, et même des fois quand l'autre, le conjoint en fait, n'est pas spécialement d'accord, parce que là tu t'es écouté. Du coup, comment se définissent les choses à la maison? Qui définit les règles? Est-ce que vous avez trouvé une harmonie, une façon de faire pour anticiper? Parce qu'on sait qu'avec les enfants, bah voilà, entre notre projet, surtout toi, tu es issu de l'animation, donc tu as forcément une projection. Et d'ailleurs, même avant de te poser cette question-là, est-ce que ton métier, est-ce qu'il y a quelque chose qui a bougé dans ta fonction, dans l'animation, à partir du moment où tu as eu tes enfants?
Mais complètement. Dès que je suis revenue de congé maternité, donc à l'époque j'étais directrice d'un accueil collectif de mineurs et ma vision des animateurs auprès des enfants, ma relation avec les familles, en fait, mais ça avait changé plein de choses. Je voulais que mes équipes d'animateurs soient dans la bienveillance, soient vraiment dans chaque parent qui arrive, on raconte la journée de l'enfant, ou alors si on n'a pas été avec l'enfant, si on n'a pas fait des activités avec cet enfant-là, mais avoir toujours un petit mot rassurant pour le parent, ne pas être que dans le truc. Ouais, bah aujourd'hui, François, il a fait n'importe quoi. Hein. Franchement, ça devient vraiment insupportable avec votre enfant. Voilà, on dit autant les choses positives que négatives. Et ouais, pour moi, ça a vraiment changé. Et je savais déjà que j'avais cette responsabilité en tant que chef d'équipe, donc des enfants et des animateurs. Mais là, elle prenait encore plus son sens. Et je pense qu'au début, j'ai peut-être été un peu relou avec mes équipes quand ils partaient en sortie. Surtout, vous les comptez bien, même si je le faisais déjà avant, tu vois. Mais là, peut-être que j'étais un peu trop... Enfin, je sais qu'il y en a qui m'avaient remonté à l'époque. Ouais, t'as pas confiance en nous. Non, c'est pas que j'ai pas confiance en vous. J'ai confiance en vous, mais déjà, c'est mon rôle en tant que chef d'équipe de vous rappeler les règles. Et dans ma tête, je me disais...
Et puis, je sais.
Et puis, moi, la première, hein, si le centre de mon fils, il revient sans mon fils, ça y est. Ouais, ouais, derrière les cocons, on a une responsabilité civile et pénale. Donc,
exactement. Est-ce que du coup, ça répond un peu à la deuxième question, mais comment vous posez les règles avec Jeff à la maison, pour les enfants? Qui pose les règles? Est-ce que vous avez une harmonie? Est-ce qu'il y a un process?
Alors déjà, comme je te disais au début là, de nos échanges, c'est moi, comme j'étais très surprotégée par ma mère, je me suis toujours dit, je ne ferai pas la même chose avec mes enfants. Je vais leur laisser faire leurs propres expériences. Je veux, je vais les accompagner vers l'autonomie, parce que en autonomie, c'est pas en un claquement de doigts, mais je vais les accompagner. Et voilà, les jeux qu'on pouvait acheter à nos enfants, je ne voulais pas qu'on achète de jeux électroniques qui fassent trop de bruit. Enfin voilà, il y a des choses sur lesquelles j'étais assez pointilleuse. Et Jeff, en général, était... Jeff, il est très facilitateur. Donc, il était toujours OK. Après, de règles, voilà, moi, il fallait... Après, je suis un peu psychorigide, tu sais. À 20h, il faut que l'enfant, il dorme. À 19h15, on mange. À 20h, ça y est, les enfants, ils sont au lit. Et tout... Moi, j'aime bien ce côté-là, d'être très organisé. Et du coup, la gestion des imprévus, des fois, ça veut...
C'est compliqué.
Ça peut un peu me dérouter, tu vois. Et lui, il est là, et Jeff est là pour... Mais non, t'inquiète, on va faire ça comme ça, ça va bien se passer.
Et du coup, il y a des choses auxquelles... Enfin, il y a des choses inévitablement que tu as dû abandonner dans ton concept, dans ta conception ou ta projection de la parentalité telle que tu imaginais. Ça veut dire que toi, quand tu t'es imaginé parent, je suppose que... Tu devais te dire, bah, je ferais comme ça, comme si, avec mes enfants, ça oui, ça hors de question. Et est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu as dû faire une croix? Est-ce que tu as dû te réajuster? Est-ce que Jeff a dû se réajuster?
Non, pas que... Je sais pas, toi, t'as peut-être des exemples concrets, non?
Non, je n'en ai pas spécialement.
Non, j'en ai pas. Après, je sais qu'on est tombé facilement d'accord aussi sur la question des écrans, par exemple. Et pourtant, Jeff, c'est un féru des jeux vidéo et tout ça. Et ça a été... on s'est mis d'accord très, très rapidement là-dessus. Après, tu sais, je te prenais l'exemple de la copine qui va crier sur son enfant et que je comprenais pas pourquoi. Des fois, j'ai pu ou je peux encore me voir crier sur mon enfant parce que, à ce moment-là, je sais pas, fatigue, j'ai pas les ressources. Et puis après, des fois, le soir, tu vois, tu te couches, tu te dis, purée, non, mais j'aurais pu faire autrement en fait. J'aurais pu l'accompagner, lui parler. Et quand j'en parle avec Jeff, en fait, souvent il est rassurant entre guillemets là-dessus. Non, mais bon, à ce moment-là, Sandra, il a fait n'importe quoi. Les règles, c'est les règles, il les a pas respectées. Oui, t'as un peu crié fort, mais bon, c'est bon, tranquille.
Et t'arrives à déculpabiliser du coup ?
Ouais, des fois oui, des fois non. Hein.
Des fois c'est plus compliqué.
Ouais, des fois c'est plus compliqué. Et, après, Jawen, il est assez facilitant, tu vois. C'est un enfant qui aime beaucoup expérimenter des choses. Voilà, il s'intéresse à beaucoup de choses. Et même si c'est un enfant très très sensible, déjà il arrive à exprimer ses émotions. Sauf que Jairon, depuis petit en fait, il n'y arrive pas. À gérer ses émotions, surtout la colère, la frustration, les choses comme ça. Et moi, c'est ce que ça me renvoie en fait, c'est très 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 brutal parce qu'il y a des fois où j'arrive pas à gérer. Et souvent, je me dis, mais attends. Quand j'étais animatrice là et que t'es là, tu gères des 60 enfants pour une chorégraphie de danse et là t'es face à un enfant de je sais pas 3 ans et t'arrives pas, comment ça t'arrives pas à le gérer? Et comme quoi tu vois, tu peux évoluer dans ce métier là et des fois ne pas avoir les ressources à l'instant T quoi.
Puis tu l'as dit tout à l'heure, en fait c'est aussi rapport à soi, c'est qu'est-ce que ça me fait à moi de voir mon enfant dans un tel état d'énervement, d'excitation et de pas réussir à encadrer ça ou en tout cas arrêter la crise de telle ou telle manière, et du coup ça nous renvoie justement à nous en fait.
Mais c'est ça.
Et c'est intéressant que tu abordes ça. Est-ce que avec là aujourd'hui dans ta parentalité et dans les choses que vous mettez en place avec Jeff, est-ce qu'il y a une grosse difficulté ou une grosse épreuve que vous avez dû traverser avec les enfants qui a nécessité soit une prise de décision, soit un gros conflit de désaccord? Est-ce que tu as le souvenir de quelque chose sur lequel vous avez été clairement en désaccord?
Très honnêtement, non.
Non?
Non.
Et de prise de décision importante, je sais pas, des fois ça peut être au moment de l'entrée à l'école, comment notre enfant interagit, les devoirs, je sais pas, il y a forcément des fois des choses qu'on aborde de façon différente.
On est différent là-dessus. Jeff, il va être plus sur l'apprentissage, les résultats scolaires. Tu vois, quand il va faire les devoirs avec les enfants, il va être très pointilleux et bizarrement moins patient que moi. Et moi, après, les questions que je vais poser aux enfants à la sortie de l'école, c'est pas t'as eu des notes. Bon, maintenant ils mettent plus de notes, mais enfin, tu vois. Je vais être plus sur comment ça s'est passé avec tes copains, ta maîtresse. Voilà, moi je suis plus dans tout ce qui va être interaction sociale, est-ce qu'il se sent bien en tant qu'élève au sein de l'école, est-ce qu'il se sent en confiance parmi les adultes qui l'encadrent, voilà, des choses comme ça.
D'accord. Il y a quelques années, tu as perdu ton père.
Mm-hmm.
Et du coup... Ça, c'est une épreuve de parents. Alors, en plus, c'est une épreuve de nous en tant qu'enfants vis-à-vis d'un parent.
Ouais.
Et en même temps, de parents vis-à-vis de nos propres enfants, de couples, etc. C'est un bouleversement. C'est émotionnellement parlant, c'est énorme. Comment t'as vécu cette épreuve de vie et de mort? Et comment t'as accompagné tes enfants en même temps que toi-même, finalement?
Donc mon père est décédé d'un cancer du pancréas et il s'est passé un an et demi entre l'annonce et donc son départ. Donc tout de suite, je l'ai expliqué aux enfants. Voilà, papy, il a une maladie. Alors Jairon avait 2 ans à l'époque, mais je leur expliquais quand même à tous les deux avec exactement les mêmes mots. Pour Jawen, c'était un petit peu plus concret. Donc je leur disais, voilà, papy, il y a des moments où quand on va venir le voir chez lui, il sera un peu plus fatigué. Des fois, il va dormir, il faudra faire moins de bruit. Et puis voilà, et puis bah au bout d'un moment on a su que mon père était en fin de vie, qu'il y avait plus rien à faire, et donc mes enfants, en fait mon père avait perdu beaucoup de poids, donc il avait plus de cheveux et tout ça, et je voulais pas qu'ils voient mon père comme ça, parce que même moi en tant qu'enfant de mon père, même moi de le voir là, parce que mon père, tu l'as connu, quelqu'un de bien portant, de robuste et tout, même moi ça me faisait mal au cœur de le voir comme ça, chétif et tout, et je me disais, j'ai pas envie que ce soit l'image, la dernière image que mes enfants aient de leur grand-père. Et donc vers les derniers temps, et même à Jeff, je lui disais viens pas le voir, mais je leur donnais toujours des nouvelles, et puis bah voilà, un matin on nous annonce donc que mon père est parti, et à ce moment-là tu dois emmener le petit à la crèche, le grand à l'école et tout, donc voilà, je l'annonce à Jeff entre deux brossages de dents, voilà, mon père est décédé, c'est bon, tu peux amener Jay à la crèche, Jaja à l'école, ouais t'inquiète, je gère et tout. Et dans la journée, j'appelle Jeff et je lui dis, écoute, ce soir je vais rentrer à la maison pour manger, on va manger tous les quatre, et à ce moment-là je vais leur annoncer. Et Jeff, t'es sûr et tout? Je dis ouais, il faut que je le fasse, et je vais pas attendre, il faut que je le fasse. Donc on est à table, donc je leur annonce, voilà, papy il est mort, et juste avant ça j'avais acheté deux bouquins, une édition, enfin
La mort annoncée aux enfants,
c'était les petits docs sur la mort, comment se passent les enterrements suivant les religions, les choses comme ça. Donc Jawen, qui était déjà très curieux à l'époque, voilà, posait beaucoup de questions, et je lui disais, et donc quand j'ai annoncé la mort de mon père, Jawen il me dit, mais alors du coup papy il sera enterré dans un cercueil? Et je lui disais, non papy, lui il souhaite être incinéré, donc être incinéré ça veut dire qu'on brûle le cercueil avec le corps à l'intérieur et tout machin là. Donc je dis à mes enfants aussi que moi je souhaite pas qu'ils soient présents, qu'ils soient encore petits. Jairon avait 2 ans, donc je pense qu'il captait pas trop, enfin même si il devait capter un petit peu les émotions, mais quand je leur ai annoncé, en fait j'étais pas larmoyante et tout ça, je t'avoue, hein, juste avant de rentrer à la maison, juste avant de passer la porte, je me suis dit, j'ai fait un peu de respiration et je me suis dit, allez vas-y, bonhomme Sandra, franchement, annonce-leur correctement avec voilà. Et puis tout de suite, mon Jawen, ça a été, mais mamie, du coup, elle va dormir toute seule. Mamie, elle a trop de chance, elle va dormir toute seule dans un grand lit.
Un enfant, quoi.
Voilà, tu vois, le truc, il a glissé. Et puis même maintenant, en fait, de mon père, on en parle tout le temps. Là, ça fait 4 ans, on a fêté ses 4 ans il n'y a pas très longtemps. On a fait un restaurant en famille. Voilà, mon père, il est dans chacune de nos discussions, on montre des photos, et voilà. Et moi, en tant que, pour répondre à ta question, moi, en tant qu'enfant, bien évidemment que voilà, le départ de mon père, je l'ai mal vécu, quelque part, j'y étais préparée. Ça m'a beaucoup aidée, parce qu'à l'époque, d'ailleurs, tu m'avais offert un livre pour accompagner en fait tout ça, et pour moi c'est à partir du moment où j'ai accepté qu'il allait partir, de toute façon j'avais pas le choix, à partir de ce moment là ça y est, c'était bon, et il allait plus souffrir.
Merci pour ce partage, Sandra, c'est très important, parce que la mort, elle est omniprésente dans tous les foyers du monde. Et en tant que parent, des fois, on sait pas comment l'accueillir, on sait pas. Des fois, on n'est même pas en capacité. Et y a plein de parents qui se posent cette question de est-ce que je le dis, est-ce que je le dis pas, est-ce que je dis, Et quel mot je dis à mon enfant? Est-ce que je lui dis qu'il est parti au ciel, qu'il est parti faire un long voyage? Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait? Et est-ce que l'enfant, il réalise vraiment que la mort, c'est la mort et qu'on ne le reverra pas? Et il y a plein de questionnements.
Oui,
on
oui.
fera autour d'un thé sur cette thématique. Tu seras la bienvenue, évidemment.
Avec grand plaisir.
Merci pour ça. Est-ce que tu as envie de partager quelque chose de façon vraiment spontanée sur ta parentalité? Est-ce que tu es fière de ce que tu as réussi à mettre en place avec Jeff pour les enfants? Quelles sont tes craintes, si tu en as, pour l'avenir? C'est à toi le mot de la fin.
Je suis fière de l'éducation qu'on leur donne là pour le moment parce qu'on a toujours été tous les deux relativement d'accord. Et voilà, donc et on les a accompagnés vers l'autonomie. C'est des enfants autonomes, débrouillards et j'en suis très très fière. Après, mes craintes, je pense que c'est quand on va arriver au moment de l'adolescence. Moi, j'ai peur des conduites à risque. C'est des garçons, il y a l'histoire, on en parle beaucoup en ce moment, hein, mais c'est cette histoire du consentement aussi, tu vois, il va falloir que on les briefe aussi là-dessus. Et puis c'est des enfants métis, donc tu vois, ce camp dans lequel tu dois rentrer ou pas, hein, je sais pas, tu vois, t'es blanc, t'es noir... je sais qu'on commence un petit peu à leur en parler, plus moi que Jeff, mais après voilà, c'est des enfants aussi qui grandissent dans un environnement culturel et religieux très très riche, et eux, toutes ces différences là ils les voient pas pour l'instant.
Parce qu'ils baignent dedans.
Ils baignent dedans, et mais par exemple, tu vois, quand il y a eu la mort de Naël, là, par exemple, nous, on met jamais les informations à la maison. C'est, je pense que c'est un traumatisme là de mon père à 20h là avec son truc. Il dit non, c'est mort, ça je le ferai plus. Et puis même, il peut y avoir des propos, des images choquantes. Et alors, mon fils qui a 9 ans, il écoute Chant de France le matin. Il a sa radio. Il a un peu, c'est un peu un pépé avant l'heure. Et en fait, il a entendu parler de ça. Donc, on a beaucoup parlé de ça. Par exemple, il me dit, mais comment la police, elle peut tuer quelqu'un, maman? La police, elle est là pour nous protéger. Et j'ai commencé à lui parler de ça aussi parce que je lui ai dit, tu sais, aussi, suivant ta couleur de peau, peut-être que la police, elle va pas réagir pareil. Mais pourquoi, maman? C'est comme ça. Enfin, tu vois, des fois, t'as pas non plus toutes les réponses et tu peux pas employer des mots un peu vulgaires et voilà. Mais en tout cas, dans ce qui est important, moi, je vais finir, c'est la communication avec nos enfants et leur dire les choses de manière naturelle. Des fois, on se dit, c'est des enfants, c'est bon. Il y a des trucs, il y a des choses qui sont tabous, qu'ils doivent pas savoir. Non. Moi, je leur ai lu un bouquin là sur le consentement, qui est d'ailleurs super, qui s'appelle Le Loup de Mylan. Franchement, il est hyper bien illustré et tout. Et c'est des questions pour moi qui méritent quand même d'être abordées, même si c'est dur et même si
tu parles de l'inceste. Hein.
De l'inceste. Même si on n'est pas forcément expert sur le sujet, tu vois, mais c'est important d'en parler avec eux.
Effectivement, après, sur cette question du métissage, de la recherche identitaire, de pourquoi je te ressemble pas, pourquoi ma couleur elle est différente, là aussi il y a un grand sujet et je pense qu'on y viendra. Pour ma dernière question pour toi, Sandra, c'est pour toi la parentalité, c'est inné ou ça s'apprend?
Ça s'apprend. Franchement, alors je pense que c'est inné chez certaines personnes, honnêtement, je l'ai vu et il y a pas très longtemps, on a quelqu'un autour de nous qui a eu un enfant, et je me souviens que je lui ai envoyé un message et je lui ai dit c'est inné en fait, toi je t'ai toujours imaginé maman, moi non, ça s'est appris, et j'ai mis une trentaine d'années avant de conscientiser que je pouvais être maman.
Pour Jeff, tu dirais il répondrait quoi à cette question, ce provocateur?
Je pense qu'il répondrait exactement la même chose que moi. Ouh, ouais, tu sais, il se la pète un peu quand même. Hein. Il va dire, ouais, c'est inné. Moi,
pour lui, c'est inné.
Ouais, c'est inné, c'est dans mes gènes.
Super papa,
tu vois.
C'est plus fort que moi.
Exactement.
En tout cas, merci beaucoup, Sandra. C'était un plaisir pour moi de partager ce temps avec toi, bien que court, parce que plein de choses à dire.
Eh oui.
Merci d'avoir participé à cette émission de Raconte ta parentalité, puisque grâce à ce genre de témoignage, grâce au fait qu'il y ait des parents qui viennent parler de leur parcours, de leur parentalité, l'idée, c'est vraiment qu'à travers toute la France et au-delà même, il y ait des femmes, des mamans, des pères, parce qu'il y aura aussi des pères à l'antenne.
Ah, ça, ce serait vraiment top.
Ouais, qui puissent se reconnaître et se dire que bah, des fois, on traverse des difficultés et on pense qu'on est les seuls ou des fois même, on se demande si on est fou. Et le fait d'entendre des témoignages d'autres personnes qui traversent les mêmes difficultés et qui ont trouvé leur stratégie, eh ben, ça peut aider.
Complètement.
Il n'y a pas deux parentalités, il y a des parentalités. Et même en tant que parent, en fonction du nombre d'enfants qu'on a, ben, on ne va pas avoir la même parentalité. Du coup, l'idée, c'est vraiment de rester motivé et de pouvoir se serrer les coudes les uns les autres pour faire en sorte que nos enfants se portent au mieux.
C'est top. En tout cas, bravo, bravo pour ce concept. Hein. Vraiment bien.
Eh ben merci. C'était Raconte ta parentalité. Et là, c'est l'heure d'aller se refaire un thé. Donc, à plus tard, les amis. Ciao.
Ciao.